Au 01 45 24 7000 avec d'abord Guillaume qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Guillaume.
Oui, bonjour. Bonjour à France Inter, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à Monsieur Boucheron.
Bonjour.
Voilà, en fait, j'ai appelé parce que votre saillie sur la question des Gallo-Romains m'a fait penser à cette lutte que peuvent mener les gens qui se réclament des historiens de garde, à savoir Christophe Naudin, William Blanc, et j'ai oublié le nom de leur collègue, qui donc s'oppose assez virulemment à ce qu'on appelle le roman national. Donc en fait, moi j'ai pensé à ça quand je vous ai écouté. Et puis par ailleurs, le terme même d'histoire mondiale de la France m'a fait fortement penser à la question d'une histoire populaire des États-Unis qu'a pu écrire Feu, et malheureusement Feu, Howard Zinn, ou une histoire universelle de Marseille qui a été écrite, bon, alors publiée aux éditions Agone, marseillaise aussi, mais voilà, moi je me demandais dans quelle mesure vous réclamiez aussi de à la fois cette lutte contre le roman national et en même temps de cette histoire populaire qu'on appelle comme ça en opposition donc à l'histoire des grands hommes. Hein. Voilà, donc c'est un peu ma question et ma réaction à votre écoute.
Merci Guillaume. Patrick Boucheron.
Oui, merci pour votre question. Et d'ailleurs, plus récemment, on pourrait évoquer l'histoire populaire de Michel Zancarini-Fournel, une histoire populaire de la France, des luttes et des rêves. Et bien sûr que ça nous a intéressés, ça nous a stimulés et provoqués, mais d'une certaine manière, nous ne voulons pas faire un contre-récit. C'est pour ça que je parlais de Clovis, et il y a aussi Charlemagne, et il y a aussi Jeanne d'Arc, parce qu'il n'y a pas de raison, nous pouvons aussi en parler, mais nous en parlons différemment.
Roman national, c'est une expression que vous utilisez, Patrick Boucheron, parfois. Même si vous voulez le déconstruire, ce roman, il existe, non? À vos yeux.
Ou récit.
Oui, enfin disons qu'il y a une force du récit et qu'il est évident qu'à certains moments de l'histoire de France, eh bien, il faut aussi comprendre les illusions, les mythologies, les ambitions, les rêves, les espérances. Voilà, c'est de cela dont on peut parler. Pour le reste, ce qui me semble important, c'est... Alors évidemment, faire une histoire par date, c'est risquer aussi de surdéterminer le politique, le culturel, sur l'histoire économique, sur l'histoire sociale, et de se laisser un peu griser par la grandeur de quelques protagonistes. Mais on n'est pas non plus obligé de choisir toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on va trouver dans notre livre Louis Pasteur, Marie Curie, des gens qui évidemment participent d'une histoire mondiale de la France. En vous entendant, là je me disais, mince, j'ai vu l'index, on n'a pas mis Dalida. Bon, ben Dalida pourrait être aussi une bonne candidate.
La fin du journal de 8h. Oui, oui, mais enfin il y a beaucoup d'autres qui font ce récit national. Quand François Fillon ou d'autres personnalités politiques proposent de réécrire une histoire, de faire réécrire une histoire qu'il présente comme incontestable, ou qui pourrait être incontestable par des académiciens de l'Académie française. Vous en dites quoi, Patrick Boucheron ?
Dans le cas présent, strictement rien. C'est-à-dire que là, je pense que pour ce dont vous parlez, c'était un chiffon rouge, et on n'est pas non plus systématiquement obligé de retomber dans les mêmes pièges à chaque élection.
C'est une sorte de provocation.
C'est une provocation, voilà. Vous en avez... parler, Thomas Legrand, c'est une manière effectivement de rassurer son camp, c'est un marqueur, voilà, c'est un marqueur.
Il a aussi dit qu'il fallait réapprendre l'histoire dans les petites classes, hein, ce qui n'était plus le cas aujourd'hui.
Écoutez, c'est simple au fond. Notre position consiste à dire que face à de telles déclarations, on ne se drape pas dans des beaux principes, on rappelle les réalités. On rappelle les réalités de l'enseignement de l'histoire, et on peut éventuellement rappeler les réalités de l'histoire tout court, parce que on n'a pas à être pour ou contre une histoire ouverte ou une histoire mondiale de la France. Elle l'est.
Mais est-ce que les citoyens, est-ce qu'un peuple a besoin d'un roman, ou disons plutôt d'un récit national qui pourrait les réunir, des repères?
Mais oui, assurément.
Mais alors, c'est là que la question se pose, à qui doit le fixer?
Et c'est pour cela, alors qui? Évidemment pas une instance académique suprême. L'histoire est ouverte, l'histoire
est offerte.
Parce qu'un
récit, ça suppose des libertés avec la vérité. Et donc avec l'histoire.
C'est notre entreprise. C'est-à-dire, face à des récits mensongers ou simplificateurs, armés des narrations qui le sont moins, qui ont toujours une forme énergique et tonique de récits, mais qui sont fondés. Vous savez, c'est tout simple. On a demandé à 122 historiens qui était spécialiste très exactement de ce dont on voulait qu'il parle, de rassembler, de faire l'effort, de rassembler en 10 000 signes, sans notes, ce qu'il savait d'un événement. Voilà. On ne peut pas dire les choses autrement.
Ça ne pourrait pas être une histoire officielle.
Et de le mais enfin, on peut. On est. Moi, je n'écris pas des programmes. Enfin, je veux dire, on écrit des livres. C'est d'abord un livre. On écrit des livres pour être lus et pour être compris et éventuellement aussi pour peser sur un débat. Je ne vais pas faire semblant de ne pas m'intéresser à cette question. Je ne vais pas faire semblant de ne pas avoir entendu effectivement Hélène Jouan qui nous dit, qui nous rapporte les propos de quelqu'un qui dit, je vote Marine Le Pen parce que quand elle parle des Français, je suis fier. Ben moi, je suis pas fier quand j'entends Marine Le Pen. Et malgré tout, on peut aussi penser à une autre forme de ce que Habermas appelle le patriotisme constitutionnel, qui est une forme effectivement de sentiment d'appartenance, ouvert, divers, offert effectivement à la réalité du monde, mais qui ne se laisse pas enclore par ce désir de ségrégation qui empoisonne nos vies.
Avant de retourner au standard, un petit retour sur des propos que vous avez tenus tout à l'heure à 8h20 qui font réagir nos auditeurs. Bah, c'est Alésia, évidemment, Agnès du Jura. Comment dire qu'il n'y a pas eu de bataille d'Alésia? Et puis en plus, on sait qu'il y a une controverse sur la localisation d'Alésia, que certains situent dans le Jura, mais ça c'est assez fantaisiste. Et Mireille de Corrèze qui nous dit, on a des preuves de l'existence des Gaulois avant l'Empire romain, ils avaient une culture dans l'art de la guerre, par exemple. Vous voyez, histoire officielle et regard critique, c'est compliqué, Patrick Boucheron.
Mais bien sûr que c'est compliqué, puis surtout, là, vous avez d'emblée pointé sur ce qui est le plus vif, et c'est bien normal. Ouais. Et on va pas avoir la naïveté de penser que parce qu'on va dire d'une voix autorisée à un micro le matin quelque chose, tout le monde va obéir. Ouais. C'est pas du tout notre idée. D'ailleurs, effectivement, le récit que Yann Potin fait de la bataille, d'abord il fait le récit de la bataille elle-même, bien sûr qu'elle a eu lieu cette bataille. Il fait le récit aussi de la difficulté que les historiens ont à raconter cette bataille. C'est ça être historien, c'est à la fois raconter quelque chose et dire comment on raconte. Quels sont les documents?
Et dire que parfois on sait pas.
Eh ben parfois, voilà, on doit se débrouiller avec.
Le plus souvent.
Non mais le plus souvent, on sait pas.
Sur des événements aussi anciens, évidemment.
Et on doit se débrouiller avec le récit d'un gars, César, qui se hausse du col, voilà.
Vincent nous appelle de région parisienne. Bonjour Vincent.
Bonjour Monsieur Cohen. Bonjour Monsieur Boucheron.
Soyez bienvenus. Nous vous écoutons.
Merci. Donc moi, ce qui m'intéresserait, ce sont les rapports en fait entre l'histoire de France et la science et la technique. Donc par exemple. J'avais appris que lors des tribunaux révolutionnaires, on avait dit que la France n'avait pas besoin de savants. Donc c'est ce genre d'éléments où par exemple, vous avez cité comme des personnes comme Pasteur, comme Pierre et Marie Curie, ou alors des grandes découvertes comme le nucléaire, plus récemment les OGM, qui sont aussi des source aussi de controverses et aussi quelque part peut-être de construction historique. Voilà, c'est un petit peu tout cet ensemble-là. On peut encore parler aussi de Eiffel, alors que ce soit sur le plan, on va dire, vraiment technique, que ce soit sur le plan technique, en fait, toutes les acceptions du mot science, que ce soit connaissance, technique, activité, voilà.
Merci. Avant que vous répondiez, Patrick Boucheron, je dois dire qu'il y a dans ce livre, cette histoire mondiale de la France, des entrées d'inspiration très, très diverses, effectivement, qui doivent aux sciences ou aux techniques. Je pense à Astérix dans les étoiles.
C'est le satellite.
Satellite nommé Astérix en 65. Le premier essai nucléaire français dans le Sahara, à Reagan, 1960. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu encore? Et puis aussi de la culture, le Yalta cinématographique raconté par Antoine de Beck à propos du premier festival de Cannes en 1946, juste après la guerre. Oui. Alors, les sciences et techniques, c'est important. Hein.
Oui, évidemment, parce que au fond, on pointait tout à l'heure la question des moments où la France, d'une certaine manière, a eu la prétention de contenir le monde, c'est-à-dire le Paris l'universel. Et on voit, il y a des moments comme ça qui sont des moments d'intensification historique. Alors il y a évidemment Louis XIV, mais là on voit que d'une certaine manière c'est pour la gloire. Et puis il y a les Lumières, et là c'est pour le savoir. Et donc on a toute une série de dates, en particulier 1751, l'encyclopédie, l'expédition d'Égypte 1798, qui montre que à ce moment-là se créent les possibilités de ce que nous avons appelé aussi une mondialisation à la française, parce que le livre n'est pas qu'une succession de dates, mais tente de au fond identifier des séquences. Et à partir de 1860, eh bien il y a, pour différentes raisons qu'on tente d'expliquer, une aspiration au fond française à la mondialisation, qui prend différentes formes littéraires, scientifiques, culturelles.
Et c'était d'ailleurs à l'époque où le français était la langue internationale, comme l'est l'anglais aujourd'hui.
Voilà. Et c'est pour cela que, par exemple, il y a la création de l'Alliance française fait partie des dates que nous avons retenues.
Jean-Paul nous appelle des Yvelines. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Voilà, je voudrais poser une question. Pourquoi les historiens réécrivent en permanence l'histoire ces derniers temps? C'est un phénomène vraiment contemporain. Bon, ça fait partie aussi de l'histoire, bien sûr. Et j'ai plus l'impression que les historiens entre eux se contredisent en permanence. On fonde des gens, enfin d'autres historiens qui sont décédés. Bon, j'ai plus l'impression que c'est une histoire de posture, parfois bien souvent d'idéologie, que de l'histoire réelle et sérieuse. Donc, si on peut avoir une histoire réelle et sérieuse, d'ailleurs. Donc, je voudrais savoir. Quelle est la position de M. Boucheron? Parce que bon, franchement, je lis beaucoup d'histoires, je connais beaucoup d'histoires, et je suis quand même choqué par tout ça.
Alors, si vous en lisez beaucoup, Jean-Paul, un exemple d'un événement, d'un fait ou d'une période.
Exemple, la Révolution française, bon, c'est vraiment le début de la France.
La Révolution.
Bon, non, si vous voulez, le début de la France. Enfin, beaucoup ont voulu faire démarrer la France en 1789. Bon, on voit pas trop pourquoi. Mais enfin, des historiens relativement sérieux l'ont fait, hein. Bon, quand vous lisez d'autres historiens, par exemple Jean-Noël Jeannonnet, bon, bah, vous voyez tout de suite qu'il est de gauche, etc.
Quoi, c'est... Bon. Si Patrick Boucheron vous répond.
C'est pas normal, on devrait avoir, ouais. Disons, une certaine objectivité quand on parle d'histoire.
Bon,
il y a beaucoup de ministres, de Mitterrand qui écrivent sa biographie.
Ouais.
Ça restera, puisque ce sont des écrits. Bon, mais peut-on donner une crédibilité à un ministre qui était très proche de celui qui l'écrit, quoi.
Enfin, alors, vous voulez, Jean-Paul, merci. Patrick Boucheron vous répond.
Bon, un historien a un point de vue. Ce qu'il doit faire, c'est l'exposer, l'exposer dans tous les sens du terme, le dire et le mettre en danger. Hein. C'est-à-dire, il ne peut pas prétendre à la neutralité, mais à la probité. La probité, c'est pas rien. La probité, ce sont des règles de métier. Alors, je pourrais vous dire simplement, vous me demandez, et c'est une très bonne question, pourquoi les historiens réécrivent sans cesse l'histoire. Je pourrais vous dire, parce que c'est leur métier. Leur métier n'est pas de la réciter, elle est de l'écrire, c'est-à-dire, au fond, de la ressaisir à chaque moment. Elle revient différente. Et d'une certaine manière, c'est pas parce qu'on est plus malin que les autres ou qu'on cherche à l'être. J'ai entendu posture. Mais c'est simplement parce que à chaque moment de l'histoire, si l'on parle, je sais pas, de la Renaissance, des Lumières des Gaulois, on va en parler différemment. C'est intéressant votre question parce qu'elle pointe pour moi une difficulté. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des débats en histoire est précisément pour des gens comme moi qui ont voulu en faire leur métier, ce qui les attirait dans cette discipline. Et ce qui, pour nous, est si vivant, si énergique, au fond, pour d'autres, et je le comprends, est inquiétant. On s'inquiète que, au fond, les connaissances ne soient pas stabilisées. Mais, enfin, voilà, il y a beaucoup d'historiens et d'historiennes en France qui travaillent, qui cherchent. Heureusement qu'ils se contredisent. Heureusement qu'ils cherchent et qu'ils trouvent. Heureusement qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, parce que sinon... Évidemment, il n'y aurait pas d'intérêt à promouvoir publiquement une recherche en histoire.
Ce que vous dites de l'histoire, elle est exactement du journalisme, dans la mesure où il y a plusieurs lectures des mêmes faits.
Oui, et au fond, ce que nous avons en commun, c'est à trouver une posture, après tout, notre auditeur le dit, et c'est important de le relever, qui nous fasse sortir de cette ère du soupçon. Voilà, il y a quand même un dédain ou une inquiétude sur les conditions de notre métier qui ont à voir, au fond, avec la production de la vérité. On ne nous croit plus. Bon, et au fond, c'est cette question-là qu'on tente d'affronter. Oui, c'est un « on » assez large.
Non plus.
Et donc, c'est une question qu'on tente d'affronter de manière, ouverte.
Patrick Boucheron, Histoire mondiale de la France, vous restez avec nous. On va accueillir Augustin Trapenard dans un instant et retrouver Alex Vizorek.